flamme à la flamme à la fonce. C'est le feu de l'amour dans le cocktail molotov.
Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Guerre sans fin, l'émission qui parle du rapport entre la France et les territoires qu'elle a colonisés. Ce mois-ci, on va plonger dans la forêt amazonienne, pour parler de la Guyane française, un territoire habité par des populations très variées issues de tous les coins du monde, un territoire qui a servi de colonie-prison avec le bagne, après avoir été un des premiers lieux d'esclavage, et enfin c'est un territoire qui a fini par attirer deux types de personnes, les chercheurs d'or et les lanceurs de fusées. Guyane, l'enfer arc-en-ciel, une émission de Radio Galère produite par le média NLP, présentée par André Labarthe et gérée par notre cher Proton à la technique.
Bon, nous, au mois de février l'année dernière, on a organisé.
Une petite préfecture française de 20 000 habitants, préfecture d'un département aussi français que le Cantal ou l'Indre-et-Loire, si différent pourtant puisqu'il est situé en Amérique à 9 000 km de Paris et qu'il est aussi vaste que l'Autriche.
Cayenne est la capitale de ce territoire situé au nord du Brésil, au bord de l'océan Atlantique. Malgré sa taille, comme celle du Portugal ou de l'Autriche, officiellement, la Guyane a aujourd'hui aussi peu d'habitants et d'habitantes que l'agglomération de Nancy ou de Metz. Colonisée par la France depuis 4 siècles, elle est depuis 70 ans à la fois une région et un département français. La forêt amazonienne recouvre toute la Guyane, à part la côte. Dans cette forêt qu'on appelle le poumon de la planète, sur un seul hectare, on trouve plus d'espèces vivantes que dans toute l'Europe occidentale. Au début de la conquête européenne, les expéditions sont très difficiles dans cette forêt sauvage. Il y a beaucoup de maladies, de la chaleur, de l'humidité, des bêtes sauvages, etc., etc. À cette époque, les seuls habitués à cet environnement sont les populations amérindiennes, celles et ceux qui ont habité ici depuis toujours. Comme tous les peuples, ils ont résisté à l'envahisseur. Un Amérindien appelé Gabriel a d'ailleurs donné son nom à une montagne depuis laquelle il a résisté plusieurs années aux colons avant d'être dénoncé puis décapité. La colonisation et la ruée vers l'or ont fini par décimer les peuples amérindiens. Aux pires heures de l'histoire coloniale, leur population a été divisée par 20. Un activiste amérindien, Philippe Aquila, nous donne son regard sur l'histoire de son peuple.
J'ai l'impression que les Amérindiens sont traités comme des peuples, des citoyens de seconde zone.
C'est une réalité, de toute façon. Et deuxièmement, c'est surtout également comme des gens qui gênent. Là, voilà, 1000 personnes ou 2000 personnes qui sont dans des endroits riches en or, ça gêne, quoi. Ces gens-là, il faut qu'ils disparaissent, il faut qu'ils bougent. Et je vous dis, la problématique n'est pas guyanaise, c'est une problématique amérindienne, ça fait des siècles que ça dure. Ça a été le problème des Sioux avec les Black Hills. Hein. Ça a été le problème en Californie, avec les Indiens de Californie ont disparu avec la ruée de l'or. C'est le problème au Venezuela avec le pétrole, c'est le problème au Pérou, en Colombie, partout. Partout, au Brésil également. D'un côté, c'est le pétrole, d'un côté, c'est le caoutchouc, c'est les diamants, c'est l'or. Et à chaque fois, malheureusement, il y a un peuple amérindien qui habite là et qui gêne. C'est surtout ça la problématique. Il y a des gens qui habitent ici. On habite ici, c'est notre pays.
Une fois que le territoire est conquis, les colons commencent à aménager, à planter, à déboiser. Mais comme il n'y a plus personne et qu'ils ont chassé tous les Amérindiens, il faut bien des esclaves pour faire tout ce boulot. Et c'est le début de la traite négrière, on en a déjà parlé. Pour aménager les nouvelles colonies américaines, les Européens vont créer le commerce triangulaire et amener des Africains en Amérique. Mais là aussi, il y en a beaucoup qui résistent. Il y a des grèves, il y a des empoisonnements de bétail, il y a des petites évasions, des avortements intentionnels aussi. Il y a des femmes qui vont même jusqu'à tuer leurs propres enfants pour éviter qu'ils deviennent des esclaves à leur tour. Et puis il y en a qui s'évadent pour de bon. Il y a tellement de femmes et d'hommes qui s'évadent qu'ils deviennent un peuple à eux seuls, celui des Negmarons. On les appelle Negmarons comme Maron en espagnol, qui veut dire bétail enfui. De l'autre côté du fleuve, dans la colonie hollandaise du Suriname, on les appelle les Bushnengers ou Bushnegger, ce qui veut dire les nègres de la jungle. En fait, ils sont cachés dans la forêt avec les Amérindiens et ils ont réussi à conserver leur tradition d'avant la déportation. Les esclavagistes montent des milices pour aller les chasser dans la forêt, mais ils résistent tellement bien que les Français finissent par signer des traités de paix avec eux et ils les laissent tranquilles. Aujourd'hui, Par rapport au nombre de déportés, il reste peu de descendants d'esclaves en Guyane. La mortalité était extrêmement forte pendant l'esclavage. C'est une Guyanaise, Christiane Taubira, qui donnera son nom à la loi qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. On va entendre son discours à l'Assemblée nationale pour présenter cette loi.
Nous sommes ici pour dire ce que sont la traite et l'esclavage, pour rappeler que le siècle des Lumières a été marqué par une révolte contre la domination de l'Église, par la revendication des droits de l'homme, par une forte demande de démocratie. Mais pour rappeler aussi que pendant cette période, l'économie de plantation a été tellement florissante que le commerce triangulaire a connu son rythme maximal entre 1783 et 1791. Nous sommes là pour dire que si l'Afrique s'enlise dans le non-développement, c'est aussi parce que des générations de ses fils et de ses filles lui ont été arrachées. Que si la Martinique et la Guadeloupe sont dépendantes de l'économie du sucre, dépendantes de marchés protégés, si la Guyane a tant de difficultés à maîtriser ses richesses naturelles, si la Réunion est tellement forcée de commercer si loin de ses voisins, c'est directement le résultat de l'exclusif colonial. Et si la répartition des terres est aussi inéquitable, c'est la conséquence reproduite du régime d'habitation. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Qu'il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi, parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français. Cette inscription dans la loi, cette parole...
Désolé, on a une coupure dans l'extrait. Mais voilà, c'est la déclaration de Christiane Taubira pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité à l'Assemblée nationale. Après la fin de l'esclavage, pour continuer à développer le territoire, la métropole encourage l'immigration depuis d'autres colonies françaises. Il y a des Haïtiens, des Vietnamiens, des Syriens, des Libanais, etc., etc. En plus de ça, les frontières sont des fleuves que l'on peut traverser facilement. Et du coup, il y a beaucoup de Brésiliens et de Brésiliennes qui sont présents en Guyane. Mais aussi beaucoup de Nègres-Marrons surinamais et surinamaises qui se réfugient en Guyane française pour échapper aux troubles dans leur pays. À Cayenne, la capitale, on trouve les créoles et les anciens bagnards. À Kourou, on trouve les blancs du centre spatial. Et à Saint-Laurent-du-Maroni, on trouve les Nègres-Marrons de Guyane et du Suriname.
Une fois de plus, Nègres-Marrons vient chanter. On dédicace ce morceau à toutes les communautés. C'est trop facile de vouloir effacer le passé. Ne pas oublier nous donne la force d'avancer. On fait de moi un homme fier d'être un nègre marron. Le passé laisse des traces, n'efface pas les cicatrices. Le sourire sur ma face à leur égard est factice. Je boite à cause du jarret qu'ils m'ont coupé jadis. Un jour viendra où pour les miens il y aura justice. Le soleil m'a donné la plus belle couleur de peau. Nègre et fier de l'être, regarde-moi comment je suis beau. Mulâtre ou noir et ben, on vient tous du même bateau. Puis soudain séparé tel un envol d'oiseau. Cette page de l'histoire qui explique mon arrivée, ce qui s'est passé au départ en vain. J'ai plutôt cherché à réduire la distance qui me sépare de mes terres, de mes racines, de mes frères, de mon pays. Héritier d'une culture où le respect prime, où le partage
hospitalité et la joie s'expriment. Afrique entière, y a pas de différence, même négro, même attitude. Même éducation, on y retrouve ses habitudes. Tout ça me rend deux fois plus fier d'avoir la couleur ébène. On est encore là pour le dire après tant de douleurs et peines. L'amour de notre peuple se traduit par une force qui se transmet de génération en génération en génération.
Un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans racine. Yeah, yeah, yeah. Soyons des hommes fiers et dignes. Ne jamais renier son passé ni ses origines. Yeah, yeah, yeah.
Le vécu de nos aïeux nous donne aujourd'hui la force d'avancer. Poursuivre la lutte et être encore plus déterminé. Aujourd'hui, mener cette tâche est l'aboutissement de toutes ces années de rébellion au prix de la liberté.
Nous avons trop de fierté en nous pour nous voir à genoux. Malgré tous vos coups, nous restons debout.
Hey. Nous sommes fiers, fiers d'être enfants de la terre mère. Fier d'être nègre, oui fier d'être nègre marron.
Vous êtes toujours sur Radio Galère pour l'épisode numéro 3 de Guerre sans fin, puis Yann, l'enfer arc-en-ciel.
Cette côte tropicale, battue par un océan chargé des bouts de l'Amazone, c'est la Guyane française. Pour nous tous, la Guyane, c'est un pays brûlant, insalubre et inhospitalier, mais surtout, c'est le pays du bagne, le bagne dont voici le site le plus célèbre, l'île du Diable, où fut interné Dreyfus.
Le bagne. Il y a un peu moins de 200 ans, les bagnes coloniaux sont ouverts. Comme l'esclavage est terminé, il faut bien une nouvelle main-d'œuvre gratuite. Dans cette période, la théorie de l'insécurité style Front National commence à entrer dans le débat public. L'idée du bagne colonial, c'est à la fois de se débarrasser en métropole des criminels et de peupler les territoires coloniaux par l'envoi de condamnés. Les bagnes de métropole sont tous fermés et on envoie aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie et surtout en Guyane dans des bateaux-cages. Après leur peine, ils sont forcés de rester en Guyane pendant une période égale à leur peine. Leur premier travail forcé, ce sera de construire eux-mêmes leur propre prison. Ces prisons dans lesquelles ils seront livrés aux maladies et où il y a beaucoup de violence, des viols, de l'esclavage sexuel, et aussi des inégalités de traitement et une hiérarchie entre les condamnés. Mais le pire, ce sont les îles du Salut, là où sont enfermés les tueurs en série. Mais aussi les rebelles, maintenus sur l'île du Silence, debout dans des cachots minuscules, sans robinet ni toilette. Et enfin, ceux qui ont fini par devenir fous, enfermés dans la maison hurlante. Un condamné passé sur ces îles est resté en Guyane jusqu'à la fin de sa vie. Il témoigne, il y a 60 ans, dans la vieille émission « 5 colonnes à la une ».
Et il y avait souvent des duels entre les détenus.
Ah oui, surtout aux îles. Aux îles, c'est le dépotoir du pénitencier, vous savez, ce sont les fortes têtes, et puis alors les types réellement qui ont fait parler d'eux, quoi, qui ont occupé la presse.
Les gardiens, ils étaient durs?
Comment? Non, non. Non, c'est comme partout, il y a eu de bons, il y en a de mauvais. Hein, il y a des types, des Corses, un nommé Philodori. Il n'aurait pas fallu s'approcher trop près, même en lui parlant honnêtement, quoi, parce qu'il était tellement peureux qu'il vous aurait descendu. Or, un surveillant qui descendait un condamné, enfin, qui tuait un condamné, eh bien, il faisait un rapport en conséquence et jamais il était poursuivi, jamais. Il passait en conseil de discipline de Guyane à la Martinique et il revenait toujours avec un grade de plus. Toujours, il y a eu des assassinats, il y a eu des surveillants gardiens, des gardiens, enfin, sur les condamnés, ben, il suffisait d'une question personnelle qui n'a rien à voir avec le règlement du condamné pour que le surveillant dégaine et puis vous tuez. Il en est descendu pas mal comme ça.
Quels étaient les camps les plus durs?
Le plus grand, ça a été le plus terrible, ça a été le camp de la mort, le camp de Charvin.
Qu'est-ce qui se passait là?
Ah ben là, c'était les hommes étaient chargés d'abattre les arbres, des grands arbres, et puis alors d'attacher les pièces sur des chemins de halage, sur des rouleaux. Il fallait, on mettait 10, 15 ou 20 bonhommes sur une pièce pour la sortir de la forêt et la mettre sur la voie ferrée, sur la route. Alors là, le Décoville, un petit chemin de fer passait, et avec les hommes, on chargeait ces pièces sur ce Décoville, et c'était descendu à Saint-Laurent, à la scierie de Saint-Laurent, pour en faire du bois de chauffage, des meubles, enfin de tout, aux travaux.
À ce camp de la mort, il y en a beaucoup qui sont morts?
Oh oui, oh là. Il fallait compter, voyez-vous, dans un an, sur un effectif, ouais, il n'y a eu jamais. Le camp de Charvin n'a jamais dépassé 500 bonhommes. Même pas 500 bonhommes. Là, mettons 400 bonhommes. Ben, il fallait compter par an la moitié. La moitié de l'effectif.
Et ils mouraient de quoi?
Soit la dysenterie, la fièvre. Oh. La nourriture était insuffisante pour les tâches à fournir. Oh. Ça, et... c'était le plus terrible. Le camp de Charvin, ça a été le plus fort, quoi.
Les opposants politiques aussi sont envoyés au bagne, sur l'île du diable, comme Louis Dreyfus qui a été victime de l'antisémitisme d'État. Mais il y aura aussi les communards, des révolutionnaires français de la fin du 19e siècle. Et puis les indépendantistes des colonies algériennes et vietnamiennes notamment. La Troisième République, qui est censée être la République de l'humanisme, elle va envoyer toujours plus de gens au bagne au fur et à mesure des années.
C'est vrai que pendant longtemps, c'est que le système est aggravé par la... Il faut bien comprendre, parce que ça, c'est pas du politiquement correct pendant longtemps, c'est que le système est aggravé par la Troisième République. Non seulement le système est poursuivi par la Troisième République, mais il est aggravé par la Troisième République. Parce que la Troisième République, elle a un comportement vis-à-vis de ceux qui sont à la marge qui est extrêmement dur, extrêmement cruel. Hein? C'est la Troisième République qui fait la loi sur la relégation, qui va envoyer des milliers de relégués en Guyane, moins en Nouvelle-Calédonie. Mais tout de même, c'est-à-dire la loi qui va punir les petits récidivistes, enfin les récidivistes de petits délits en particulier, et en particulier les femmes. La conduite de la Troisième République vis-à-vis des femmes condamnées a été beaucoup plus sévère et beaucoup plus dure que sous le Second Empire.
C'était l'historien Louis-José Barbançon dans Les Forçats du Pacifique, un documentaire. Les femmes, effectivement, sont envoyées au bagne et en fait, c'est souvent des prostituées ou des mères de familles nombreuses qui volent pour nourrir leurs gosses ou se prostituent aussi pour nourrir leurs enfants. Elles sont envoyées dans un couvent pénitentiaire où elles doivent prier et coudre en silence à longueur de journée. Contrairement aux hommes, elles sortent jamais et elles n'ont pas le droit à l'alcool. Mais l'idée de l'État en envoyant ces femmes au bagne, c'est aussi qu'elles sortent rapidement pour se marier à des bagnards et qu'elle participe au réarmement démographique de la colonie guyanaise, comme dirait Macron. Mais comme on peut s'y attendre, les condamnés du bagne sont souvent auteurs de violences conjugales.
Et on voit des femmes qui retournent de leur plein gré vers les bonnes sœurs et le surnommé couvent, parce qu'elles préfèrent être enfermées et protégées par les sœurs, même si la discipline de celles-ci est très dure, plutôt que de rester avec leur conjoint. Inversement, on voit des hommes qui demandent à ce que les femmes soient reprises par les bonnes sœurs parce qu'elles leur désobéissent, parce qu'elles ne leur font pas à manger, parce qu'elles ne travaillent pas comme ils s'y attendaient sur leurs concessions rurales ou commerciales.
Alors soit ils les ramenaient définitivement, soit ils les ramenaient pour les punir un temps, parce qu'ils considéraient qu'elles avaient fait une inconduite notoire, etc. Donc ils les ramenaient. Et quand ils considéraient qu'elles avaient été suffisamment punies, ils venaient les réclamer. Et elles repartaient ensuite avec lui. Et ainsi de suite. Donc, elles passaient de la domination du couvent à celle de leur mari, et vice-versa.
C'était Yannick Ripa, une historienne, et Jean-Lucien Sanchez, un historien dans Femmes au bagne. En fait, à force d'aller-retour entre le bagne et leur domicile conjugal, le couvent devient la maison de retraite un peu de ces femmes au bagne. Puis enfin, ça devient leur cimetière et elles finiront par avoir passé toute leur vie au bagne. Ce bagne, il finira par fermer quelques années après la sortie d'un article d'Albert Londres qui avait fait scandale. On vous a déjà parlé d'Albert Londres, c'est un gars qui a beaucoup milité, un journaliste qui a beaucoup milité contre les chantiers coloniaux, notamment au Congo, vous en a parlé dans l'épisode précédent. Voilà, et une fois la fermeture du bagne, la France a alors tourné le dos à la Guyane pour quelques années encore.
Zonzon, on t'a vu t'es jury des assises bien trop vite résilie. Ton contrat pour la vie, j't'imagine aujourd'hui engraissé au ravioli. J'en pâlis, pas ni blême, tu disais en garde à vue, pas de blême. Tout ça c'est du déjà vu, je ne vois que ma haine aujourd'hui, ils t'ont eu. Zonzon, on t'a vu t'es. Clic, clac, c'est le bruit de la clé. Fin de soirée ou début de matinée, tu viens d'arriver. Ta nouvelle vie va commencer, ta liberté c'est envolé, tu n'aurais pas imaginé, ta vie est programmée et minutée. Tes faits et gestes sont contrôlés et surveillés. Ma clé non-stop, ma tombe, ma stock te bloque. J'évoque les coups de bâton pesant du schnock. Prison égale bâtisse à haute tension, c'est le monde des coups de pression. Attention, des tensions fermes ou provisoires. Du couloir au parloir, il n'y a pas d'échappatoire.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, tous mes frères qui ont la rage et la rage.
Soulevé pour un délit mineur, t'as frappé un contrôleur, tiré sur un dealer. Dealer, justicier, quelle est l'ampleur quand ils te rangent tem-tem dans leur classeur. Pour eux, t'es l'élément perturbateur. Les faits restent accusateurs. On donne raison au meilleur des orateurs, à la version du truffion, celle du procureur. Stupeur quand je vois ce mélange de malfaiteurs, du pointeur au kidnappeur ou l'assassin qui ne sait même pas pourquoi il refroidit. La liste de mauvais plans, elle s'agrandit. Mais le plus grand risque, c'est qu'à ta sortie, t'en gardes le souvenir d'une vie paisible et sans souci. Car si tu rechutes, ils gagneront leur pari.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
On a aboli la peine de mort par souci de bonne conscience, mais la pire des sentences reste qu'on ne démolit pas les remords. Dans ta vie pleine d'ennui, tu médites sur ton sort. Tu végètes sur ton lit comme le fruit qui mûrit. Petit à petit, trop, tu pourris. Tu choisis de faire le tour de tes souvenirs. Mieux vaut qu'espérer s'en sortir. Ta joie de vivre aujourd'hui, c'est rare lettre, manuscrite et peu de visites. Avoue que tu cogites, vie à la prison sortiront des amis d'élite. Terrassé par cette vérité, une relation privilégiée lira les rescapés. La tornade est passée, le bateau a coulé, on réembarque ceux qui restent à côté. Famille, amis, dans la même galère, on sait pourtant qu'il n'y a rien à faire. La terre tourne, regarde par la fenêtre.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage.
Vous êtes sur Radio Galère, c'est Guerre sans fin, épisode numéro 3, Guyane, l'enfer, arc-en-ciel. Après avoir parlé de l'exploitation des personnes, nous allons passer à l'exploitation des sols de la Guyane. Chaque année, il y a 3 tonnes d'or légales qui sont produites par an en Guyane. En fait, la Guyane, c'est la réserve d'or de la France. Mais évidemment, la part illégale représente le triple de la part légale. Et du coup, en tout, il y a 12 tonnes d'or qui sortent de Guyane tous les ans. En fait, depuis toujours, les orpailleurs clandestins à la recherche de la pépite, ils creusent des trous dans la forêt guyanaise de partout. À chaque fois, c'est à peu près deux terrains de foot. Et ils sautent de terrain de foot en ils sautent tous les 3 jours, ils changent de territoire tous les 3 jours. Et ils seraient environ 15 000 à tenter de survivre par le commerce de l'or. Ils détruisent tout sur leur passage. Pourtant, la forêt guyanaise, elle a été protégée par un parc naturel qui est le plus grand d'Europe. Parce que, ouais, techniquement, la Guyane, c'est l'Europe. Donc, ça en fait le parc le plus grand d'Europe. Mais parc ou pas parc, ils abattent des arbres et empoisonnent les cours d'eau avec du mercure qui leur sert à extraire l'or. Les Amérindiens tentent de préserver leurs coutumes, leur tranquillité et leur santé, mais c'est compliqué de se battre contre la fièvre de l'or. On estime que plus de 70% des Amérindiens sont intoxiqués au mercure. Le même activiste amérindien que tout à l'heure nous explique ce phénomène d'intoxication de la population.
Bon, nous, au mois de février l'année dernière, On a organisé une grande conférence sur Kourou avec tous les responsables politiques amérindiens. Et il y avait un médecin qui était présent, un médecin qui est quand même depuis plusieurs années à Maripasoula, qui a confirmé qu'il voyait des cas en permanence. Et surtout qu'on se focalisait sur les bébés handicapés, c'est vrai que c'est choquant, mais le plus gros du problème, il n'est pas là. Le plus gros du problème, c'est que le mercure s'insinue progressivement dans toute la relève, ce qu'on va appeler la relève Guyana, la jeunesse qui normalement est là pour les générations futures. Tous ces jeunes qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans mangent régulièrement du poisson et du poison, hein, et s'empoisonnent donc doucement. Et c'est, donc ça amène des retards de croissance, des problèmes nerveux, etc. Là on est en train vraiment de fabriquer des gogoles, comme c'est le terme même du médecin. Vous voyez ? Et depuis cette date-là, on n'entend plus parler du mercure actuellement. Le problème est réglé, il n'y a plus de mercure officiellement vendu en Guyane, donc la problématique n'existe plus. Et officiellement, la DSDS a refilé le bébé, comme on dit, mais malheureusement c'est un bébé empoisonné, à la Croix-Rouge. Le rôle de la Croix-Rouge est maintenant d'aller en pays Guyana, réapprendre à manger, réapprendre l'alimentation au Guyana. Il ne faut pas manger tel poisson, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, parce que c'est empoisonné. Donc, d'un côté, vous voyez, ils avouent qu'il y a un problème d'empoisonnement, puisque certains poissons sont interdits à l'alimentation. Mmh. Et d'un autre côté, donc, la DSDS dit qu'il n'y a pas de problème, c'est la Croix-Rouge maintenant qui va réapprendre l'alimentation à des peuples qui sont là depuis des siècles et des siècles. Le problème, et ça on ne le dit pas, c'est que c'est la seule source de protéines qui existe actuellement, c'est le poisson. Le gibier, il n'y en a plus.
On peut parler de scandale du mercure.
Le terme scandale ne veut même plus rien dire. C'est pire que ça. Pour un pays comme la France qui donne des leçons à d'autres pays, un pays démocratique, ne pas arriver à traiter un problème sanitaire comme ça, de laisser un peuple mourir, c'est... on peut quasiment utiliser le terme d'ethnocide. On l'a déjà utilisé, c'est la vérité.
En plus de la pollution, l'or amène aussi la violence et les trafics. Les garimpeiros, souvent brésiliens, sont les chercheurs d'or, sont organisés en gangs de truands du style de Zepequeño dans la Cité de Dieu, et ils se font la concurrence surtout. Les règlements de compte sont fréquents, mais avec la chaleur, les animaux de la jungle et les piranhas, il y a un cadavre, ça tient pas 3 jours en décomposition. Dans ce monde-là, tout se paye en pépites, l'essence pour les machines d'extraction, la nourriture et surtout les prostituées. Olivier Weber, le réalisateur du documentaire de l'extrait précédent, témoignait il y a quelques semaines au micro de Fabrice Drouel sur France Inter.
Olivier Weber, si je vous ai bien lu, si j'ai bien compris, pour trouver de l'or, il faudrait 3 ingrédients, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On peut même en rajouter un quatrième qui est l'eau, mais l'eau est gratuite pour faire tourner les moteurs. Vous savez, au fin fond de la forêt, vous arrivez donc sur des bases, sur des villages clandestins, des hameaux même perdus au bout de plusieurs jours de pirogue. Et là, on peut y passer même des semaines. Donc si on enlève l'eau, il faut effectivement 3 ingrédients. D'abord, l'essence qui coûte très cher, je le disais tout à l'heure, jusqu'à 6 euros le litre. C'est quand même beaucoup hein, pour faire fonctionner non seulement les moteurs, mais aussi les pirogues qui amènent les trafiquants, les garimpeiros à leur base ou pour aller donc dans les villes en amont ou en aval, et puis après l'alimentation bien sûr pour nourrir les hommes, et puis troisièmement, et là je pèse mes mots parce que c'est presque une marchandise vécue en tant que telle par les trafiquants de l'or, les femmes, et les femmes, je suis très sensible à ça parce qu'elles sont asservies, un village de trafiquants d'or ou de garimpeiros qui n'a pas de femmes ferme, donc il faut qu'il y ait des bordels, et effectivement c'est assez impressionnant, et je l'ai vu plusieurs fois avec mes équipes, on a été mis en joue même par ces passeurs, ces piroguiers qui nous visaient avec des fusils. Vous avez donc dans les grandes pirogues, c'est immense, hein, une pirogue peut même transporter quelquefois avec des planches en latéral une voiture, j'ai vu ça avec une Toyota, mais donc vous avez des espèces de barils de diesel ou d'essence au fond de la pirogue. Par-dessus, vous avez des caisses d'alimentation, du riz, des pâtes, quelquefois même des bêtes vivantes. J'ai vu une vache quelquefois, j'ai vu même des cochons et des moutons. Et au-dessus, des femmes avec un gilet de sauvetage. Et quand vous croisez leur regard, on les voit d'ailleurs après dans les hameaux clandestins au fin fond de la forêt. Elles sont malheureuses, elles sont asservies. Beaucoup viennent pour faire fortune. Et en fait, très vite, elles deviennent des esclaves, voire des prostituées.
La seule réponse de l'État français à cette situation désastreuse de la région, c'est les armes. En Guyane, il y a plus de 2000 militaires qui sont présents. Ils passent une bonne partie de leur temps dans la jungle à brûler des pirogues et à détruire les installations des chercheurs d'or. Ils y ont même installé un centre d'entraînement en forêt équatoriale qui est un peu reconnu mondialement chez les militaires. Mais en vrai, si les soldats ils sont là, c'est qu'il y a un intérêt de l'État. Et c'est pas vraiment le bien-être de la forêt amazonienne qui compte.
En ce qui concerne la Guyane, tout le monde sait et moi, croyez-le bien, le premier. Combien difficile dans ce département est le développement en raison d'abord de la nature qui oppose beaucoup d'obstacles, en raison aussi de la disproportion qui existe entre tout ce qu'il y a à faire et le nombre de ceux qui sont là pour l'accomplir, en raison enfin du très long temps pendant lequel la France, après avoir d'abord beaucoup espéré de la Guyane, s'en était, il faut le reconnaître, non pas désintéressée, mais quelque peu détachée. Cette période est terminée. La France... Nous avons à réaliser, vous, sur place, et la France avec vous, une grande œuvre française en Guyane. Et une grande œuvre dont on s'aperçoit dans toute la région du monde où se trouve le département. Il faut qu'on le voie et qu'on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuerons.
Cette grande œuvre dont parle De Gaulle à Cayenne, il y a 60 ans, c'est le centre spatial de Kourou. En fait, pendant la guerre froide, pour être une puissance mondiale, il faut pouvoir lancer des fusées, avec ou sans bombe nucléaire. Et au moment où il parle, l'Algérie est déjà indépendante, en fait. Mais la France, elle a insisté pour garder encore un peu ses bases militaires dans le Sahara. C'est les bases militaires dans lesquelles elle teste ses armes chimiques, ses fusées et ses bombes nucléaires. Mais du coup, vu qu'il y a l'indépendance de l'Algérie et que l'Algérie ne va pas attendre 1000 ans avant que la France laisse ses bases militaires, il y a vite besoin d'une nouvelle base spatiale, et ce sera Kourou, en Guyane. La Guyane n'intéressait plus la métropole depuis la fermeture du bagne, même De Gaulle l'a dit dans cet extrait, mais c'est un grand territoire, considéré comme vide et situé au bord de la mer. Ce qui intéresse le plus les lanceurs de fusées, c'est surtout qu'elle est placée au niveau de l'équateur. Ça demande des fusées un peu moins puissantes et un peu moins lourdes que celles des Américains et des Russes. Mais voilà, ils sont contents, mais c'est toujours la même histoire quand la raison d'État entre en jeu. La vie des habitants n'a évidemment pas été prise en compte. Un espace de la taille de la Martinique a été défiguré pour construire le centre. Les terres agricoles ont été rasées, les villages ont été détruits, et les habitants ont été envoyés un peu plus loin. Ou beaucoup plus loin d'ailleurs. Et même si le centre, c'est la moitié des activités économiques de Guyane, il représente plus qu'un quart des emplois aujourd'hui. Car il y a de moins en moins de chantiers capables d'embaucher toute la population guyanaise, avec ses immigrés du Suriname, du Brésil, etc. Et même si de plus en plus de Guyanais travaillent au centre spatial à des postes de responsabilité, la grande majorité des employés vient de la métropole. En gros, c'est des Blancs. Ils vivent tous à Kourou, surnommée la Ville Blanche, ou Pretoria, une espèce de ville résidentielle à l'américaine au milieu d'un pays rempli de bidonvilles. Christiane Taubira, encore, nous donne son avis au journaliste Jean-Pierre Elkabbach sur le problème qui semble général en Guyane, et pas que au niveau du centre spatial.
Chez vous, comment vous nous voyez ?
J'ai un double regard, c'est peut-être même un strabisme divergent. Je vais vous dire que je vois la société française sous deux angles. D'abord, l'angle de la société française en Guyane, parce qu'il y en a une, et je crois qu'elle ne fait pas écho positivement à la société française. Ce sont tous ces chefs de service, en fait. Hein. Nous avons une société en Guyane. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur sur des individus, il y en a de très bien. Mais les systèmes surdéterminent les comportements. Et particulièrement dans un pays fondé sur la mélanocratie, c'est-à-dire où le mérite est marqué par la couleur de la peau. Ouais. C'est très fort et c'est très net en Guyane.
Mais ça, vous allez le casser.
La réalité encore en noir et blanc. Je crois que pour le bien de l'humanité, il faut le casser parce que, bon, les différences sont enrichissantes.
Voilà, Christiane. Jean-Pierre Elkabbach est insupportable. Pourtant, sans la Guyane, la France ne serait probablement plus du tout une puissance mondiale. Les satellites qui sont lancés depuis Kourou en toute indépendance sont indispensables pour le fonctionnement de la société française, mais aussi pour les militaires. C'est dans l'espace qu'ils ont tout ce qui est important pour eux. Ils ont trois yeux qui s'appellent CSO, ils ont trois oreilles qui s'appellent CRS, et deux bouches pour communiquer, qui s'appellent Syracuse.
Syracuse.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, on est sur la fin de l'épisode numéro 3 de Guerre sans fin sur la Guyane. À l'instant, c'était Syracuse de Henri Salvador. Il est né rue de la Liberté à Cayenne et se surnommait lui-même l'homme de la liberté né au pays du bagne. Ce pays du bagne, aujourd'hui, est toujours beaucoup moins développé que la métropole. La criminalité y est très forte, la plus forte de France derrière Mayotte. Faut dire qu'en Guyane, les armes sont encore en vente libre, c'est un peu le Far West. Comme dans tout bon western, il y a des Indiens et il y a des cow-boys.
Est-ce qu'on peut avoir un temps d'hélico de 10 minutes au-dessus de Balata? On est à la recherche d'un gars là pour un vol de voiture. On a la voiture, mais on n'a pas le mec. Ok, merci.
Un hélicoptère et un chien de recherche aux trousses d'un voleur de voiture.
On est très fort sur le terrain. Le but, c'est de le rattraper. Le but, c'est que tout le monde voit qu'on va le rattraper. On met les moyens hélicoptères, chiens, motos, voitures, gendarmes départementaux, gendarmes mobiles. Le but est de le rattraper et de montrer à tout le monde qu'on n'a jamais le terrain.
Voilà, ça, c'était les cow-boys. Voilà comment la France se positionne en Guyane pour tenir le terrain. Quand on entend ça et qu'on sait qu'il y a 4000 policiers et militaires contre 1000 lits d'hôpitaux en Guyane, on se dit qu'au lieu de payer des tours d'hélicoptères, il pourrait y avoir une politique de santé, une politique d'emploi, de transport en commun, d'éducation, etc. Côté éducation, il y a un grand nombre d'écoles en préfabriqué d'ailleurs à Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'Est, dans l'Ouest, pardon. Et les seuls lycées de Guyane, ils sont sur la côte. Il y a une seule université qui est à Cayenne. D'ailleurs, on a vérifié, il n'y a pas une seule formation en aérospatiale. En Guyane. Pour bosser au centre spatial de Kourou, en fait, il faut aller faire ses études en métropole, pour ceux qui ont les moyens. Les Guyanais sont l'une des communautés des départements d'outre-mer la moins présente en métropole. La Guyane, c'est un territoire qui est délaissé, avec officiellement plus de la moitié des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Macron n'y a pas remis les pieds depuis sa première élection en 2017. Il avait dit qu'il irait il y a un an, mais depuis, pas de nouvelles. On va finir avec un jeune qui témoigne... On n'a pas le témoignage, donc on vous mettra pas le témoignage. Mais c'est un jeune qui témoigne et qui dit que, en gros, la Guyane, ça ressemble pas du tout à l'Europe, quoi. C'est pas l'Europe, et il dit ça sur un fond d'un son de PNL. Donc finalement, le seul truc qui est européen en Guyane, c'est le rap français. Et ça fait plaisir quand même. C'est la fin de cet épisode. Sur la Guyane, on vous conseille... c'est assez dur de trouver des sources directement sur la Guyane parce que en fait, tout le monde parle du bagne ou de l'or, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui parle de la Guyane en elle-même, de son histoire politique, de son histoire coloniale et tout ça. C'est un peu comme si tout le monde s'en foutait un peu. Alors que c'est quand même assez intéressant, il s'est quand même passé beaucoup de choses, il y a beaucoup de peuples différents qui se sont battus tous contre le colonisateur français et qui ont réussi et qui réussissent encore à vivre ensemble aujourd'hui, et c'est quand même un exemple à suivre. On conseille le documentaire d'Hélène Trigueros qui s'appelle Femmes au bagne, les oubliés de l'histoire, et aussi La fièvre de l'or d'Olivier Weber, dont on a passé plusieurs extraits. Flash info, le Mali, le Niger et le Burkina Faso quittent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est une communauté proche de l'État français et souvent accusée de néocolonialisme et de relan de France-Afrique. Et par là même, ils quittent la communauté du franc CFA. On regardera ce qui se passe pour la suite, mais il se peut qu'ils créent leur propre union, comme beaucoup de pays avaient voulu le faire à la fin de la colonisation, afin d'être plus fort en étant unis en tant qu'union d'État d'Afrique, en l'occurrence d'Afrique de l'Ouest, comme la Fédération du Mali ou la Sénégambie, qui ont été des fédérations qui n'ont pas duré très longtemps.
On goûte la note flamme à la fonce. C'est le feu de l'amour dans le cocktail Molotov.
C'était Guerre sans fin, Guyane, l'enfer arc-en-ciel, à réécouter sur le site de Radio Galère. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, @AndréLabarthe sur Instagram, Twitter et Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions ou que vous voulez témoigner pour le prochain épisode. Ce sera le dernier mercredi du mois de février et on parlera de la Nouvelle-Calédonie, une autre ancienne colonie pénitentiaire française. Bonne soirée et à dans un mois.
Bienvenue.
Welcome.
Benvenuto.
Bienvenida.
Ahla ou sahla. Tu viens d'arriver à Marseille. T'as besoin d'aide, de conseils, d'infos. Tu cherches de l'aide pour tes papiers?
Looking for help with your papers?
De Al-Khalidouazi, je peux papier.
Des cours de français?
French lesson?
Classes